puis tu chantes, depuis John Cage, tout est possible en art.
Les artistes sont toujours là, moi l'artiste je fais ceci, moi l'artiste je fais cela.
Ce sont des croûtes.
Je pense qu'il n'y a vraiment aucun débouché pour les artistes en général.
La conversation des artistes du Fonds d'art contemporain Paris Collection.
Eh bien, je me suis beaucoup baladé à Paris, j'ai souvent regardé les murs et je trouvais tout ce qui se passe sur le mur est très intéressant.
Quoique l'artiste doit disparaître un peu. Alors là, j'aurais bien aimé une interview où on vous voit que vous et pas moi.
Par Zineb Souleimani.
Le Fonds d'art contemporain Paris Collection existe depuis 1816. S'il a plusieurs fois changé de nom au cours de son existence, il n'a cessé de s'étoffer et de professionnaliser ses modalités d'acquisition et de conservation. Aujourd'hui, le fonds compte quelque 23 000 œuvres et s'enrichit annuellement de plusieurs dizaines d'œuvres nouvelles qui tentent de rendre justice à la fois à la variété des médias d'expression, aux thèmes contemporains que les artistes mettent au travail, tout en se souciant de représenter la jeune génération comme des artistes confirmés. À travers une série de 10 épisodes, le podcast La Conversation des artistes du Fonds d'art contemporain Paris Collection ira à la rencontre de certains artistes et certaines artistes qui ont récemment rejoint cette riche collection. Benoît Pierron coud, assemble, répare, et pas seulement des tissus, mais des fragments de vie, des éclats d'expérience, des draps d'hôpitaux fatigués porteurs d'usure et d'attente, il fait des œuvres qui respirent, hésitent, racontent, des draps comme une archive vivante. Il ne cherche pas à effacer la trace de la vulnérabilité des corps, mais à la sublimer, créant une esthétique où la matière parle autant que l'absence. À travers ses gestes, l'intimité forcée des hôpitaux devient une matière féconde, un espace de résistance, depuis lequel il fait entendre la voix du peuple des salles d'attente. Son œuvre textile Paravent a été acquise en 2023 par le Fonds d'art contemporain de la ville de Paris, et c'est un bon prétexte à notre conversation. Bonne écoute à vous! Il y a chez vous, Benoît Pierron, une manière unique d'interroger la matérialité de la vie, son aspect éphémère et ce que cela signifie d'exister dans un corps vulnérable. Vous êtes artiste protéiforme et votre œuvre traduit un récit autobiographique dans un usage poétique des matières. Depuis vos premières installations jusqu'à vos premières expérimentations textiles, vous construisez un langage visuel et tactile où la mémoire personnelle et collective se déploie en motifs, tissus, sculptures et environnements immersifs. Vous êtes concerné par votre sujet puisque vous êtes atteint, depuis l'enfance, d'une maladie chronique qui vous a confronté au lieu de soins, aux salles d'attente. Vous explorez ainsi l'hôpital comme espace d'intimité forcée et vous devenez le porte-voix du peuple des pyjamas des salles d'attente. Ce vécu nourrit chez vous une réflexion subtile sur la frontière entre le vivant et le non-vivant, entre ce qui soigne et ce qui enferme. Vous dites souvent d'ailleurs que la maladie est l'incarnation vivante de la mort. Vos créations, souvent réalisées à partir de matériaux organiques ou textiles, comme des draps d'hôpitaux usagés ou des pièces de literie, agissent comme des palimpsestes chargés de récits enfuis. Il s'en dégage une sensualité inattendue, même lorsque le sujet est le plus frontalement morbide. En ce sens, vous réenchantez les objets de la maladie en leur donnant une forme et une fonction poétique sans jamais les enfermer dans un discours pathologique. Nous allons en parler. Mais d'abord, quelques mots sur le contexte de notre rencontre, puisqu'en 2023, le Fonds d'art contemporain de la ville de Paris a acquis Paravent, une de vos œuvres textiles créées en 2021, trois panneaux de cloisons d'intimité d'hôpital faits de draps réformés des hôpitaux pour créer le patchwork. Nous allons en parler également. Alors une première question, un peu rituelle, pour démarrer notre conversation. À quel moment vous vous êtes dit que c'est artiste que vous vouliez devenir? À quel moment vous avez su que c'est à travers l'art que vous alliez vous exprimer?
L'anecdote que j'ai la plus envie de raconter à ce niveau-là, c'est... Ça répond peut-être partiellement à la question, mais tout du moins, ça raconte une histoire et j'aime bien en raconter. C'était entre 3 ans et demi et 7 ans. Je dirais plutôt que j'avais 6 ans. C'est une période où j'allais très peu à l'école parce que dès lors qu'il y avait quelqu'un dans l'école qui était malade, moi, je pouvais pas y aller. Dès lors qu'il y avait quelqu'un qui avait un rhume ou une varicelle, donc autant dire que j'ai été seulement quelques jours par an à l'école. Le reste du temps, j'étais plutôt à l'hôpital. Donc c'était très compliqué pour moi la sociabilité avec les autres enfants. J'étais pas du tout équipé, approprié pour interagir avec des enfants qui n'étaient pas en train de mourir ou qui n'étaient pas en train de se battre pour vivre, ou les deux. Donc je suis arrivé dans cette classe et il y a une petite fille en haut des escaliers qui était un petit peu la caïde de l'école. qui m'a donné un grand coup de pied dans la tête et qui m'a fait valdinguer en bas des escaliers. Ce qui n'était pas une très bonne idée, comme j'étais pas si loin que ça de l'aplasie. Mais en même temps, moi je l'aimais bien. Et en revenant le soir, j'ai commencé à dessiner une sorte de jeu de plateau avec des petites figurines. Quelques semaines ou mois plus tard, la fois suivante où j'y étais, en fait, j'ai été avec ce jeu et j'ai été la voir en lui disant que c'était un jeu de plateau pour qu'on devienne amis et qu'on joue ensemble. Et effectivement, on est devenus amis. Comme c'était la personne qui était la plus violente de l'école et qui était plus grande parce qu'elle avait redoublé un nombre de fois assez incommensurable et vivait en foyer de la DAS, bah ouais, ça a été ma manière d'interagir en fait. Et elle est devenue ma protectrice. Et en fait, quelque part, c'est pas si éloigné que ça de ma pratique artistique. Donc peut-être que ça a été la première fois où j'ai eu cette pratique où je crée en fait des artefacts qui me permettent d'être en contact avec la société et qui me permettent d'interagir positivement avec une société de valides que je ne comprends absolument pas. Ça me permet aussi de pas devenir terroriste et tout d'un coup de plutôt tenter de construire quelque chose et vivre de manière joyeuse.
Et justement, tout votre travail pour moi pose des questions fondamentales, notamment que signifie habiter un corps ? Comment les lieux de soins transforment nos imaginaires ? Comment peut-on transformer un trauma en une œuvre réparatrice et collective ? Un travail au croisement de l'intime et du politique, du sensible et du conceptuel. Et je me demande justement à quel moment vous avez pris conscience que votre corps est devenu un corps politique aussi.
J'ai tendance à dire que mon corps est devenu un petit peu plus politique quand j'étais au Kremlin-Bicêtre et que... J'ai reçu des transfusions qui étaient du sang contaminé. Alors, j'ai pas été le seul. Hein. Je tiens aussi un tout petit peu à dédramatiser le truc. Enlever l'héroïsme parce que c'est toujours très très précieux. D'enlever l'héroïsme parce que c'est des techniques de mise à distance des valides pour se dire « Oulala, ça c'est héroïque, ça ne m'arrivera jamais. Si, si, ça vous arrivera. » C'est super banal et en fait, si vous êtes valide, vous êtes juste pas encore invalide. Ça, pour moi, c'est très important de préciser ça, de dire que dans le service, bah, y avait peut-être 13 enfants. Que dans ces 13 enfants, il y en a quelques-uns qui ont eu besoin d'avoir des transfusions de sang et que parmi ces personnes qui ont eu des transfusions de sang, dont je fais partie, ben on est deux à avoir survécu parce que c'était du sang qui était contaminé par le VIH-Sida. Ça faisait partie de ce qu'on a appelé à cette époque-là l'affaire du sang contaminé. Je pense qu'à partir de ce moment-là, ben il a fallu que je vive avec la survivance, c'est-à-dire pourquoi j'ai survécu alors que d'autres n'ont pas survécu. Et parce que tu peux être complètement abattu par ce truc-là et tout d'un coup tu commences à t'auto-détruire ou à détruire les autres, ou un peu des deux. Soit tu décides un petit peu de devenir un porte-drapeau. Et c'est un petit peu le cas quand je crée une peau collective, que je couds en fait des tissus qui sont chargés de la présence, de l'absence d'autres personnes. Enfin le truc c'est aussi de réussir à ne pas être qu'un porte-drapeau et aussi à parler d'autre chose. Depuis un corps situé, mais tout d'un coup à parler de tout et n'importe quoi finalement. D'apporter juste un regard de la société sur le jardinage, le truc, le machin. Mais ne pas se limiter non plus à être un porte-drapeau, sinon on a un peu perdu aussi.
Et bien justement, on va commencer notamment à parler de certains des projets. Et je le disais en introduction, en 2023, le Fonds d'art contemporain de la ville de Paris a acquis Paravent, une de vos œuvres textiles créées en 2021. Alors comme notre conversation est audio, on peut peut-être commencer par décrire cette œuvre, sa forme, sa taille. Alors on ne l'a pas sous les yeux aujourd'hui parce que, en l'occurrence, en ce moment, elle est visible et exposée dans le cadre d'une exposition que vous présentez au magasin à Grenoble.
Oui, on peut en parler. Puis ici, on est au cœur de la matrice, à côté des, des machines à coudre sur lesquelles ce paravent a été cousu. C'est un paravent qui a trois panneaux. Quelque part, le panneau central est un petit peu le motif principal, qui est un motif d'étoile un peu à la Wonder Woman. Avec des couleurs, il y a pas mal de présence du blanc dans les espaces interstitiels. Et puis tout d'un coup, il y a pas une dégradation, mais une sorte de mutation, tout d'un coup, du motif à gauche et à droite, où au niveau de la colo, de la colorisation du motif, ça a été fait par un processus, par une sorte de divination algorithmique. J'ai utilisé un site qui s'appelle random.org pour déterminer en fait les couleurs du motif et qui du coup changent le motif. Et également, il y a un ratio qui est différent entre les trois. Donc ça part du même motif, mais en fait, il y a une sorte de mutation Et ce que je trouve intéressant, en fait, dans le fait de faire intervenir cet algorithme, cet aléatoire, le côté random, bah, c'est que c'est un petit peu une expression aussi de la maladie. C'est-à-dire que rien n'est prévisible et que même avec une grille de lecture qui est très solide, simplement par la colorisation qui va être différente, eh ben on arrive à un motif qui est différent.
Vos œuvres à base de draps d'hôpitaux marqués donc par l'usure et l'histoire des corps qu'ils ont enveloppés traduisent une étrange justement alchimie. Ces matières chargées de vulnérabilité deviennent poétiques et presque sacrées. Et avec Paravent, par exemple, vous donnez une nouvelle vie à cet objet fonctionnel en le transformant en une frontière translucide entre l'intime et l'exposé. Ces draps, à la fois témoins de l'intimité des soins et du poids des institutions, deviennent sous vos mains des œuvres ambiguës entre protection et dévoilement. Que cherche-t-elle justement à révéler ou à cacher sur notre rapport aux soins et à la mémoire des corps que ça charge aussi ?
Ben, ce que je trouve intéressant, déjà, c'est ces draps, j'aimerais en préciser un petit peu l'origine. Alors, c'est pas la Biennale de Venise, mais ils viennent de Tête de Gondole, de Leroy Merlin. Ils sont revendus dans le circuit de valorisation des déchets. Je crois que ça a son importance d'utiliser ça quand on parle de personnes dévalidées ou de personnes invalidées. Ben, les draps, quand ils sont trop tachés, chargés de taches de sang ou peu importe d'autres types d'excrétum ou de fluides, ou de coups de scalpel, ils sont revendus comme chiffon pour nettoyer la voiture ou la peinture chez Leroy Merlin. C'est là que je les ai découverts. C'est les couleurs qui m'ont marqué, et tout de suite, j'ai été vers ces couleurs. Des couleurs qui sont un peu dans un rapport soft age. Parce qu'en fait, il y a cette lessive hygiéniste, ils ont été lavés. Toutes les histoires ont une couleur. Je me souviens que je m'étais vraiment intéressé à la couleur quand il y avait encore ce musée qui était le musée de la PHP. Ça remonte à il y a quelques temps parce qu'il a fermé. En tout cas, c'est ces couleurs-là. Et voilà, ça y est, je me suis perdu. En fait, en ce moment, je prends des médicaments qui me font me perdre à l'intérieur de moi-même. On parlait d'habiter son propre corps, et il y a plein de manières de l'habiter, y compris une manière qui est celle de tenter d'interagir avec lui, avec son intériorité. Ce qui n'est pas forcément facilité par, justement, ce rapport à... Il y a le rapport à l'intimité qui est inexistant, en fait, quand on est à l'hôpital. C'est un lieu qui est public, l'hôpital, et qui se prolonge à l'intérieur des corps. C'est-à-dire que tout d'un coup, ton corps devient un lieu public dans lequel se baladent les médecins, par exemple, quand ils arrivent le matin. Tout d'un coup, ils se baladent à l'intérieur de toi, ils regardent tes imageries. Tes imageries, toi, tu y as très peu accès parce que tu sais à peine les lire, mais en fait, il y a vraiment ce truc. L'ANEC a inventé le stéthoscope pour mettre à distance le patient de son propre corps, de sa propre intériorité, parce qu'il était face à une femme qui le dégoûtait. Donc, il a inventé le stéthoscope pour pas avoir à mettre son oreille contre le cœur. Et tout ça, ça a continué avec le fait, oh tiens, si on inventait une spécialité, c'est le radiologue. Le radiologue, il va pouvoir faire la radio, et c'est un spécialiste qui va pouvoir le lire et te faire un compte-rendu qui est illisible, où tu es obligé d'aller interroger maintenant ChatGPT pour qu'il tente de t'expliquer ce que c'est que cette tumeur et cette angoisse. Mais c'est vrai qu'il y a eu toute cette technique, c'est ce qui s'appelle l'invention de la clinique et des techniques de mise à distance par rapport à l'intériorité. Intériorité qui n'est pas si éloignée que ça de l'intimité, quoi.
Et par rapport aux draps, notamment réformés des hôpitaux, je crois avoir compris que même la couleur, le Pantone a été inventé par un médecin, enfin que ça a une signification, cette nuance-là de pastel qui a vraiment un sens caché, ou en tout cas l'origine de cette histoire. Je ne sais pas si vous pouviez revenir aussi dessus et revenir du coup au travail que vous faites avec les tissus.
Ouais, la couleur dont on parle le plus, en fait, c'est l'origine du vert. Le vert, c'est le vert Charcot. C'est Charcot, quand il a traîné à la Pitié-Salpêtrière, qui a mis au point cette couleur qui est la parfaite complémentaire de l'hémoglobine. Et donc, c'était dans cette idée que quand on accède à l'intériorité des patients, c'est-à-dire quand on ouvre le corps et que le sang gicle, avoir un sentiment d'apaisement et d'équilibre entre l'hémoglobine et le vert. Voilà, ça vient de là, et c'est pour l'apaisement, en fait, des chirurgiens. C'est pas pour les patients, ce vert-là. Mais après, il y a aussi du rose. Alors tout d'un coup, ça devient une sorte de la durée un petit peu affadie. Ouais, il y a ce côté un petit peu empire, ce côté salon de thé au relais H, affadie par une lessive hygiéniste qui tout d'un coup Voilà, et vraiment dans cette fadeur, dans ce neutre, celui de Roland Barthes, celui des arômes qui sont dédiés aux personnes invalidées.
Toujours dans vos travaux textiles comme celui du paravent, le geste artistique semble aussi chargé de soins que le matériau lui-même, le drap d'une banalité presque invisible dans le contexte hospitalier, devient un support pour raconter les flux, les cicatrices et les réinventions des corps, comme vous le disiez un peu tout à l'heure. Cache rien de ses origines, mais il en fait autre chose. Votre pratique semble donc chercher à restituer une forme de dignité et de sens à ces matières que l'on abandonne. Est-ce que votre geste peut être lu comme un acte de soin, pensé symboliquement, ce qui reste souvent indicible dans les espaces hospitaliers ?
De soin, je suis pas complètement sûr. Simplement parce que ça fait pas partie de mon vocabulaire. J'ai tendance un petit peu à le ranger dans le tiroir de la bonne ou la mauvaise santé. Et c'est vrai que je suis un peu émancipé de ce type de binarité parce que la bonne santé ne me semble pas forcément disponible. Dans bien des cas, c'est comme la guérison, elle n'est pas disponible. Voilà, dans ce tiroir, il y a aussi l'espoir ou la charité. Soigner, ouais, c'est ça. Et puis du coup, il y a soignant ou soigné. Mm. C'est vrai que j'ai du mal, les médecins avec lesquels je travaille, j'ai tendance à dire, je leur demande une des questions avant de savoir si je veux travailler avec LE, c'est de savoir s'ils pensent que la médecine est une science dure ou molle. S'ils disent dure, ça ne m'intéresse absolument pas de travailler avec LE. Quoi. Je suis un garçon qui fait un peu de l'optique de précision à ce niveau-là dans le vocabulaire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se glissent derrière la taxonomie, et c'est une manière d'herboriser un petit peu le monde des valides pour moi, parce que le français est pour moi une langue vraiment étrangère, ce n'est pas ma langue maternelle. Ma langue maternelle, c'est celle des hôpitaux, c'est la douleur et c'est des choses qui sont de l'ordre de l'indicible et plutôt d'un langage des organes et internes. Mm. Donc c'est pour ça que j'ai un intérêt particulier pour les mots et leur usage d'ailleurs et leur mésusage, parce que j'adore aussi les utiliser, les tordre et les glissements, les dégoulinades.
On peut revenir sur les flux, ce qui vous intéresse un peu avec cette symbolique aussi des flux qui habitent aussi ces draps qui sont un peu aussi des compagnons un peu de travail pour vous.
Bah, je crois que mon travail est juste de proposer des expressions différentes de certaines choses. Alors, on comprend qu'il y a la maladie, on comprend qu'il y a l'intériorité, mais les flux, souvent, les flux, on les perçoit quand ils sont à l'extérieur. À l'extérieur de quoi ? De la peau, quoi. La peau qui est cette frontière hétérotopique où c'est un peu une sorte de teaser de Foucault. Mais je crois qu'il y a vraiment cette question-là, y compris dans le paravent qui joue ce truc-là, qui est un peu le rideau, qui est un peu le loverboy, qui joue sur cette porosité entre intérieur et extérieur. Le drap aussi, finalement, c'est un petit peu la même chose parce que c'est ce dont on recouvre les corps. Ça y est, je me suis perdu.
On était sur les flux.
On était sur les flux. Et les flux, pour moi, c'est l'excrétum. C'est-à-dire que c'est ce qui, quand ça affleure à la surface, s'oxyde, devient quelque chose qui est répugnant. On peut songer au flux bleu des publicités par rapport aux protections hygiéniques. On peut penser à l'usage que tous les hommes font de leur urine pour rendre l'espace public dégoûtant. On peut penser à plein de choses, où, enfin, le rapport qu'on a avec tous ces flux dès lors qu'ils sortent à l'extérieur. Moi, ça m'intéresse, ça m'intéresse de changer un tout petit peu l'expression de ça à travers des motifs de papier peint ou à travers d'autres choses, ou du moins en utilisant le cute ou d'autres encapsulages, en fait. Par exemple, ça m'arrive de faire... j'ai aussi une dimension qui est c'est plutôt art for other people, où c'est des goodies d'atelier ou ce type de choses. Et je fais des sachets de lavande. Donc je remplis en fait des petits sachets en draps réformés des hôpitaux. Mais du coup, le premier geste qu'on fait avec un sachet de lavande, c'est de le porter à ses lèvres et à son nez et d'être dans un truc qui détend comme ça. Bon, sauf qu'on est en train de porter quand même des taches de sang ou de graisse ou de colle pour les organes ou à sa bouche. Et là, pour moi, tout est gagné.
Pour revenir au paravent, est-ce que c'est une pièce unique ou un multiple ? Et si c'est un multiple, qu'est-ce que, de manière générale, vous permet la série dans votre travail ?
J'ai fait un deuxième paravent dans l'exposition que j'ai fait pour la galerie Tarunazu à Tokyo en septembre. Pour moi, c'est pas complètement un multiple parce que c'est intervenu, disons, à deux ans plus tard. On les voit accrochés au mur, en fait, les panneaux du nouveau paravent. Et c'est des choses complètement différentes qui se jouent dans l'histoire de ces motifs. Et pour moi, il y a une évolution un petit peu complète. Donc si jamais on se branche, en fait, sur ma canalisation, 2 ans plus tard, il va y avoir tout un travail au niveau des motifs qui est complètement différent et qui raconte une histoire absolument différente. C'est aussi parce que pour moi, c'est qu'un châssis, en fait. Je sais que c'est un objet, le paravent, je sais que ça, c'est même un mobilier qui est mouvant. Les roulettes sont très importantes dedans, parce qu'en fait, les roulettes, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de home à l'hôpital. Que quand on revient du bloc opératoire, on peut très bien être dans une autre chambre, avec d'autres voisins, avec ses affaires qui sont dans un sac poubelle transparent, comme en prison, en fait. Voilà. Mais en tout cas, il y a cette impermanence qui est symbolisée par ces roulettes, où tout peut tout le temps arriver, comme le truc random ou autre. Donc il y a cette spécificité-là. Mais pour moi, c'est un peu une sorte de châssis de peinture aussi. Je fais des petites blagues. Celui qui est celui du fond de la ville de Paris, c'est le premier que j'ai fait. Donc il y a ce truc de Wonder Woman, il y a cette déclinaison avec ce jeu des formats qui sont différents, qui créent un environnement, une intimité. Je l'avais montré en premier dans l'exposition Cottagecore à la Galerie Sultana. Ensuite, je l'ai montré avec Clément Dirier au prix Ricard. Et là, à Tokyo, c'est la même chose. Mais en fait, pour moi, c'est un petit peu... C'est un peu absurde, cette notion de multiple, parce que c'est qu'un châssis de peinture. En fait, on ne poserait pas la question forcément à un peintre de lui demander si, parce que c'est des châssis, c'est des multiples. Il s'agit de peinture unique, en fait. Parce que ce qui se passe véritablement, c'est ces vibrations. Il y a un truc qui est super, super formel. Et c'est un peu, au niveau des motifs, ils sont souvent des motifs répétitifs qui n'ont ni début ni fin. Un truc genre pour... c'est un peu un truc pour déstresser les gens qui sont dans les salles d'attente existentielles. S'il n'y a ni début ni fin, c'est un peu comme quand tu rentres à l'hôpital, tu ne sais pas quand est-ce que tu rentres, quand est-ce que tu sors. Ce que j'aime bien, c'est Sense of Disorder. Et c'est un peu une crypto-blague qu'il faut expliquer parce que c'est par rapport à un livre qui s'appelle The Sense of Order, qui est de Gombrich, qui est vraiment hyper hétéronormatif, patriarcal, tout ce que tu peux imaginer à ce niveau-là. Mais en même temps, il raconte des trucs au niveau de la psychanalyse des motifs qui est hyper intéressant. Et c'est dans ce livre, The Sense of Order. Et du coup, je pense que la version creep, la traduction creep au fond de la salle d'attente, c'est un peu le royaume des coquillettes et le peuple des pyjamas, c'est là-bas. Donc ça donnerait Sense of Disorder.
Et quel est le rapport que vous entretenez peut-être encore un peu aujourd'hui avec cet objet du paravent ?
Je pense que c'est vraiment comme tout le monde, j'ai jamais eu de paravent dans ma vie, à part à l'hôpital, où tu peux en avoir, mais c'est pas chez toi, c'est mouvant, c'est des espaces d'intimité qui tout d'un coup peuvent se dérober. C'est aussi des choses qui ont eu tendance à disparaître au moment de l'épidémie Covid. Pas en France, mais dans beaucoup de pays, parce que c'est des matériaux qui sont poreux, donc qui peuvent être support pour recevoir des virus. Donc ça a été enlevé de tous les hôpitaux aux États-Unis. Donc ils ont enlevé ce que, dans les termes techniques, au niveau des marchés publics, d'ailleurs ils appellent pas ça des paravents, mais des écrans d'intimité. Oula, écran, intimité... Voilà.
C'est dit. Vous transformez vos expériences de passion en une célébration de la vulnérabilité humaine, mais vous cherchez aussi à faire de la place à d'autres vécus, d'autres récits. L'empathie devient votre médium et vous en faites des carrés de soie d'archivage poétique. Est-ce que l'on peut dire 2 mots de cet autre projet qui continue, je crois, de se décliner ?
On a un petit peu parlé du stéthoscope de la Hennec et de ce rapport à l'imagerie. Et après, en fait, effectivement... Maintenant, on en est plutôt au scanner. Donc, à un moment donné où j'étais allongé en mode jardinière, après après qu'on m'ait coupé un bout de carcinome rénal à cellules claires, j'ai eu envie de me balader à l'intérieur de moi-même parce que j'étais complètement défoncé par le tramadol et je réussissais à rien faire. Mon ordinateur avait tendance à me réchauffer le ventre parce qu'il chauffait, c'était agréable. Je sais pas, en chillant comme ça, j'ai téléchargé le logiciel qui permet aux chirurgiens de faire des modélisations 3D, des scanners, des corps, de l'intériorité. On peut faire apparaître plein de choses dans ces logiciels. On peut leur dire, tiens, montre-moi l'air. Alors là, quand on commence à regarder et à se balader à l'intérieur de son cerveau, mais c'est fou, mais il y a plein d'air. Enfin, ça devient une banquise, ça devient autre chose. En plus, c'est possible de faire, selon trois axes, c'est possible de faire tourner son corps et de le couper comme avec un fil à beurre. Enfin, voilà, il y a ce truc pour pouvoir accéder à d'autres organes. Donc je me suis baladé, j'ai commencé à faire ces randonnées dans mon corps. Et puis, à force de faire ça, je me suis dit, mais peut-être que ce serait possible d'en faire des motifs. Et pourquoi pas en faire des motifs sur des carrés de soie ? Parce que je me dis qu'avoir un carré de soie sur sa table de chevet, c'est toujours un truc qui est utile, que ce soit en date, quand on veut fader la lumière. Et ça peut vraiment être utile de fader la lumière du pouvoir médical quand le médecin arrive le matin et juste allume la lumière en guise de bonjour. Ou d'avoir cette douceur sur la soie qui est connectée aussi à tout un univers. Donc, j'ai voulu faire des carrés de soie. Et alors, en fait, dans l'histoire des carrés de soie, il y a aussi les plans d'évasion. C'est une histoire qui est belliqueuse. C'est lié à Hermès et c'est lié aussi à ces plans d'évasion qui sont les plans, en fait, des endroits que les gens allaient conquérir, que les officiers allaient conquérir, qui étaient imprimés dans leur petite pochette dans la soie pour qu'ils puissent se tirer si jamais ils étaient faits prisonniers. Donc, tout d'un coup, si je reprends mes imageries et si j'essaye de me balader à l'intérieur de mon corps et d'en faire la cartographie, bah, j'ai gagné à l'escape game. Même si on m'a mis un pyjama avec des cris « Hospital use only » ou « Hôpitaux de Paris » pour que vraiment je puisse pas me tirer, même si je vais aller fumer une clope, c'est pas possible parce que de toute façon, la blouse elle est fendue derrière et on voit mes fesses, donc on peut pas se tirer. Bah, si j'ai ce carré de soie, peut-être que je peux quand même me tirer.
Vous donnez souvent des prénoms d'amis à vos œuvres, d'amix à vos œuvres. L'un des carrés de soie s'appelle Lucie et je vous propose d'écouter cet extrait sonore.
Salut, ici Lucie Camus. En sortant d'une intense journée à laquelle on aurait bien ajouté un atelier sieste, on a commencé à échanger sur nos performances de la validité, notamment dans des moments de représentation publique, pour des besoins de production de pièces. Donc j'aurais trouvé ça intéressant que tu puisses raconter comment toi tu composes avec ce script time et comment parfois ton expérience temporelle intègre tes pièces.
Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire qui est Lucie Camus pour vous et répondre à sa question, mais peut-être passer par une explication de ce que c'est le script time pour nous, s'il vous plaît.
Alors je vais commencer par définir Lucie Camus. Lucie Camus est une peluche. Les peluches, c'est la seule binarité que j'accepte dans ce monde. Donc il y a les gens qui sont... Enfin, il y a les peluches et il y a les non-peluches. Donc c'est une peluche qui est curatrice, artiste, qui écrit. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, voilà, j'ai fait ce carré de soie pour... c'est un multiple pour Chisenel, qui est une galerie à Londres, avec mon carcinome rénal à cellules claires. Je trouvais ça cool de pouvoir le porter autour du cou. Et puis je me suis dit, mais en fait, ce serait cool d'être au chevet d'autres personnes qui ont à dealer avec ces imageries qui sont existentielles, en fait. C'est un peu comme le tarot aussi, sauf que c'est pas du... Enfin, c'est... Voilà. Donc je me suis dit, tiens, je vais ouvrir mon petit cabinet d'imagerie médicale de hacking. Et puis, la première personne que j'ai invitée, bah, c'est Lucie Camus, qui elle aussi a toute une histoire avec ses imageries, et qui est arrivée avec son histoire, et puis on a passé un temps à se balader dedans, dans son corps, à ce qu'elle me raconte son corps, et j'en ai fait un motif avec plein d'homothéties, plein de rotations, vraiment un motif décoratif, que j'ai ensuite confié à une amie qui s'appelle Sarah Schrader, qui est une coloriste spécialisée dans d'autres types de voyages, puisqu'elle elle colore les sièges des trains à grande vitesse à travers le monde. Et elle en a fait la colo avec différentes interprétations. Tout d'un coup, c'est devenu complètement autre chose. Et voilà, j'ai fait un portrait de Lucie Camus en foulard à partir de ses imageries, de son histoire. On s'est baladé ensemble à l'intérieur d'elle-même.
Et pour répondre à la question de Lucie ?
Le temps est un médium dans mon travail, je pense. Et effectivement, c'est un temps qui est creep parce que je parle depuis un corps qui est invalidé. Ces derniers temps, j'ai eu tendance à dire qu'on habitait les angles morts. Je trouve ça assez intéressant. Je pense que la clepsydre du Crypt Time, elle habite les angles morts. Et c'est le goutte-à-goutte. C'est le goutte-à-goutte dont parle Derek Jarman, où tout d'un coup, le goutte-à-goutte, qui est terriblement lent, rejoint un océan d'éternité, une sorte de flaque. Je Je crois que c'est un peu la flaque, le Creep Time. Et ça rejoint certaines de mes œuvres de manière, finalement, très, très illustrative, presque pédagogique. Et ça me donne envie de parler d'une pièce qui s'appelle The Leak, qui était le métronome d'une pièce qui dressait le temps d'une salle d'attente que j'ai réalisée au MUMOC à Vienne. C'était une petite fontaine déstressante qui était une fuite d'eau. Ça fuitait depuis le plafond. C'était la fuite des institutions qui venaient dans un bac. Ces bacs à roulettes, évidemment, qu'on met quand il y a des fuites d'eau avec des panneaux de signalétique. Attention, sol glissant ou ce type de truc. Bon, sauf que j'avais mis quand même des petits graviers roses pour que ce soit presque un petit peu aquarium. Et c'est en circuit fermier, cette pièce. Donc, tout d'un coup, il y a un petit tuyau qui est un tuyau comme ceux des perfusions qui va vers l'extérieur et qui revient. La pièce, je l'ai rejouée à Grenoble au magasin, elle est visible en ce moment. Et là, on l'a connectée à du code qui fait qu'on a pu choisir la forme, la taille et la fréquence de la goutte. Sauf que la fréquence, on a décidé qu'elle soit random également. Ce truc un peu imprévisible. Donc des fois, ça donne des pièces comme ça. Puis des fois, ça donne d'autres choses. Parce que ça donne simplement des absences. Il y a une performance que j'ai faite à Salzbourg. Et où là, c'était sur la présence de l'absence. Et j'étais absent. Et c'était la curatrice qui, en fait, parlait de cette absence avec une chaussette, avec mon bas de contention. Et des yeux, et qui tout d'un coup nous parlait de Roland Barthes, qui parlait aussi de la représentation, qui parlait de Saussure, qui parlait de plein de choses. En fait, je pense que l'absence est un des médiums issus complètement du Creep Time, et de ces moments aussi de hors-champ, de l'impossibilité, des lignes budgétaires à rajouter quand il s'agit de personnes qui sont invalidées. Ouais, c'est un rythme qui est différent et qui est vraiment imprévisible, comme cette fuite d'eau. On ne sait jamais si... C'est ce que je dis toujours au début, quand je travaille avec des curatrices. Je ne sais pas si je serai présent au vernissage. Si je suis présent, bah, ça prendra certainement un taxi pour aller jusqu'à la gare. Et puis, si je veux pouvoir être debout au moment du vernissage, bah, il faudra que j'ai un siège qui soit suffisamment mou. Donc, ce sera un siège qui sera en première classe. Et potentiellement, il faudra quelqu'un qui soit au bout du quai pour m'aider au cas où il y a un escalier ou un truc. Et voilà, enfin, ce Creep Time, il donne... ouais, ça s'illustre aussi de manière très, 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 très pratique, en fait. Et en même temps, moi, j'utilise beaucoup de passe-temps. J'enfile des perles. Je fais du patchwork, je fais de la broderie. Les gens appellent ça des passe-temps, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont... C'est des activités de salle d'attente qui sont utilisées pour silencier aussi les petites filles pour qu'elles soient sages, ou les personnes invalidées, ou les enfants malades. On peut faire aussi du macramé quand on est un petit peu plus vieux. On peut jouer au bridge. C'est pour ça que j'ai fait des fauteuils bridge. En fait, tout vient de cette... de ces outils de craft qui sont aussi des choses pour qu'on se taise et qu'on soit occupé et qu'on fasse pas de bruit. Ben, en fait, moi, je les utilise pour amplifier nos voix. Dans ce moment du temps qui n'a ni début ni fin, comme ces motifs sur le paravent, et en même temps comme notre temps dont on est complètement dépossédé par le pouvoir médical, on sait très bien quand on rentre à l'hôpital, puisque on y est convoqué. C'est même pas une prise de rendez-vous, on est convoqué à l'hôpital. Par contre, on ne sait jamais quand est-ce qu'on ressort, puisque c'est le médecin qui en décide.
Votre œuvre, auparavant, a été acquise par le Fonds en 2023, je le disais en début de notre échange. Ça vous fait quoi de voir que le Fonds d'art contemporain a acquis l'une de vos œuvres ?
Il y a quelque chose qui me réjouit toujours dans n'importe quelle acquisition, qu'elle puisse être publique, privée ou quoi que ce soit. C'est tout d'un coup que la maladie qui peut me détruire soit capable... de me nourrir. Et de me nourrir en dehors des systèmes dédiés aux personnes invalidées. C'est-à-dire que c'est pas l'allocation adulte handicapé. C'est simplement que voilà, cette maladie génère ce besoin de créer ses formes et que ces formes me permettent d'acheter du vernis à ongles.
Vous pouvez retrouver le podcast La Conversation des artistes du Fonds d'art contemporain Paris Collection sur les principales plateformes d'écoute ainsi que sur le site du Fonds.